VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Guinée équatoriale, le dialogue national voulu par le président Théodore Obiang Nguema commence lundi dans le pays en l'absence des principaux leaders de l'opposition et après l'annonce que l'amnistie des prisonniers politiques promise par les autorités reste jusqu'à présent lettre morte. Pour le président Obiang, au pouvoir depuis 1979, l'objectif de la réunion est de permettre une large participation de tous les acteurs politiques pour préserver la paix et le développement. Le chef de l'État s'est engagé à garantir liberté et sécurité à tous les participants au dialogue auquel ont été conviés pour la première fois la société civile, l'Église et la communauté internationale. Mais ce lundi, aucun des militants incarcérés du principal parti d'opposition dissous, Citoyens pour l'innovation, qui devait être relaxé, n'a retrouvé la liberté. Et les poids lourds de l'opposition en exil, invités par le président Obiang, ne sont pas venus à Malabo. Par contre, les 17 partis légalisés dans le pays ont, eux, confirmé leur présence au dialogue. République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba est le candidat de son parti, le Mouvement de libération du Congo, le MLC, à l'élection présidentielle du 23 décembre de cette année. L'opposant congolais en liberté provisoire à Bruxelles, en Belgique, depuis le mois dernier, a promis à ses militants réunis en congrès de vite revenir en RDC pour assumer cette charge. Thierry Kamoudi, de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a suivi le congrès du MLC pour VOA Afrique.
Jean-Pierre Bemba Gombo, récemment acquitté dans la première et la plus grosse affaire pour laquelle il était depuis 10 ans incarcéré à la Cour pénale internationale, a été investi candidat président de la République par son parti. Intervenant au téléphone depuis Bruxelles, le sénateur Bemba a remercié militants et militantes de son parti pour le choix porté sur sa personne et promis de revenir très bientôt à Kinshasa.
Une fois de plus, un grand merci pour la confiance que vous m'avez faite. Et j'espère témoigner aussi à ma personne. J'espère vous voir prochainement à Kinshasa. Je vous remercie tous.
Délice Sanga, le secrétaire général d'Ensemble pour le Changement, plateforme électorale de Moïse Katumbi-Chapwe, évoque pour sa part la nécessité pour l'opposition de se désigner un candidat commun à la prochaine présidentielle à moins de 2 semaines du début du dépôt des candidatures.
Nous avons tous formulé l'appel à l'unité avec Moïse Katumbi et d'autres acteurs politiques. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est venu le temps que tous les acteurs de l'opposition puissent se mettre ensemble pour que nous ayons une solution commune à la crise.
Kinshasa, Thierry Kamoundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, la candidature du président sortant Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre prochain est loin de faire l'unanimité au sein de l'opinion publique. C'est via son compte Twitter que le président Biya, âgé de 85 ans et au pouvoir depuis 1982, a annoncé vendredi dernier qu'il allait briguer un nouveau mandat. De Yaoundé, plus de détails avec Emmanuel Jules Ntap, correspondant de VOA Afrique.
Les jeunes Camerounais sont partagés après la déclaration de candidature du président Paul Biya, quoique ce dernier ait placé sa candidature sous le signe de la stabilité, la prospérité et l'unité au Cameroun.
Je vais laisser les choses et donner une chance à d'autres personnes pour que cette personne vienne montrer de quoi ils sont capables.
Au vu des actes que nous voyons qu'ils posent pour le pays, c'est à nous les jeunes de prendre leurs décisions.
Je pense qu'il peut, en ce moment précis où nous traversons quelques troubles, être le seul à même de faire revenir l'ordre.
À 85 ans, Paul Biya sera le plus âgé des prétendants au fauteuil présidentiel en octobre prochain. Une posture qui suscite également des avis contradictoires au sein de l'opinion publique à Yaoundé.
Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où actuellement les choses ne se sont pas stabilisées, on n'attend pas plus que sa présence à son âge. Les contraintes qu'un tel déplacement à partir de Yaoundé ne puisse lui permettre de faire ce déplacement en toute quiétude.
Vous savez, à cet âge, il y a certaines réflexions qu'on ne peut plus faire. Beaucoup de gens disent qu'ils ne travaillent pas bien.
Non, 85 ans, c'est l'âge majeur pour traiter les gens. Si on laisse les jeunes gérer le Cameroun, que deviendra le Cameroun demain? La vie est pour les vieux, pour les responsables.
Seuls les militants du RDPC, le parti au pouvoir, baignent dans l'euphorie totale. Paul Biya est l'homme de la situation. Professeur Elvis Ngolengole, coordonnateur de l'Académie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui a investi Paul Biya.
Cette candidature représente l'espoir pour les Camerounais, pour le Cameroun. C'est une candidature populaire, c'est une candidature républicaine. Son souhait, c'est que s'il est réélu, ensemble avec tous les Camerounais, ils vont faire de telle sorte que le Cameroun reste toujours stable et reste toujours prospère.
Le 19 juillet prochain, les Camerounais seront fixés sur le nombre de challengers de président actuels à avoir déposé leur candidature à Election Cameroun, l'organe en charge d'organiser les scrutins au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jolmoutap, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Tchad, il existe dans le pays un lien étroit entre la crise économique et les mesures d'austérité d'une part et les manifestations et la répression d'autre part. C'est ce qu'a déclaré Amnesty International dans un rapport publié ce lundi. Selon l'Organisation de défense des droits humains basée à Londres, le Tchad est depuis 2015 en proie à une grave crise économique, principalement liée à la forte baisse des cours du pétrole brut et exacerbée par le manque de diversification économique. Pour y faire face, le gouvernement tchadien a mis en place de sévères mesures d'austérité et obtenu des aides financières internationales. Et toujours concernant le Tchad, le gouvernement tchadien a entrepris une opération de recensement physique des officiers et gardiens de la paix. Cette initiative, pilotée par l'Inspection générale du contrôle d'État, a pour objectif de repérer les policiers fictifs qui grèvent le budget de l'État. Écoutons le ministre tchadien de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir.
C'est une opération d'assainissement du fichier de la solde. Et le balai d'assainissement doit passer partout. Et on va encore faire l'audit du diplôme. Imaginez-vous, un policier, il est à la fois fonctionnaire quelque part, il est à la fois douanier. Mais voyez-vous ces désordres-là? Et malheureusement, c'est ça la réalité. Vous-même, vous ne serez pas d'accord avec celui qui est là à la maison, qui gagne 2-3 salaires, alors que vous, vous vous arrachez les cheveux pour gagner votre pain. Deux poids, deux mesures. Ça ne peut pas passer dans la 4e République.
Ahmad Mahamat Bachir, ministre tchadien de la Sécurité publique. Nigeria, les forces armées nationales sont à la recherche de 23 soldats portés disparus après une attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Un sérieux revers ce week-end où l'armée nationale a perdu le contrôle d'une de ses bases. L'attaque est attribuée à des miliciens de la faction Abu Musab al-Barnawi, affiliés au groupe État islamique qui cible notamment les forces armées. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Des combattants de Boko Haram ont pris ce week-end une importante base militaire au terme d'affrontements étendus une embuscade à des soldats dans une autre attaque. Ces deux attaques témoignent de l'emprise des djihadistes dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés ont envahi une base militaire de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe, une région frontalière du Niger, où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées il y a quelques mois. Le commandant de la base et 63 soldats ont pris la fuite pour trouver refuge à Gaïdam, un chef-lieu situé à une soixantaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée. Il s'agit de la deuxième attaque d'envergure en deux jours de Boko Haram contre les forces nigérianes dans le nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari avait pourtant déclaré que la région était entrée dans une phase de stabilisation post-conflit. La recrudescence de la violence a mis la pression sur le président Muhammadu Buhari qui avait promis d'améliorer la sécurité dans le pays.
Selon des sources sécuritaires, ce lundi, des dizaines de soldats ont été tués dans l'attaque de la base militaire. Mali, une dizaine de civils tués par des djihadistes présumés dimanche dans le nord-est du pays, près de la frontière du Niger, selon les autorités locales et des groupes armés à dominante Touareg. Plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux civils appartenant en particulier aux communautés Peuls et Touareg, ont péri ces derniers mois dans cette région, où s'affrontent notamment des djihadistes ayant prêté allégeance au groupe État islamique et deux groupes, principalement Touareg, soutenant la force française Barkhane et l'armée malienne, le Gatia et le MS. Et pour terminer, à Helsinki, en Finlande, le sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine continue. Les deux leaders ont commencé leurs consultations en face à face avec uniquement des interprètes au palais présidentiel finlandais. Dans une déclaration avant l'ouverture des discussions, le président Trump a dit que bien s'entendre avec la Russie est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Cela me fait très plaisir de vous rencontrer, a déclaré pour sa part Vladimir Poutine en soulignant que le temps est venu de parler des relations bilatérales sur les questions de fond. Au programme après le face-à-face entre les deux présidents, un déjeuner de travail avec leur équipe et une conférence de presse commune. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.